France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et soyez les bienvenus sur France Inter, nous sommes le lundi 18 novembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, quel avenir pour les gilets jaunes? Les manifestations du week-end, un an après le début du mouvement, ont été à nouveau émaillées de violence à Paris et n'ont pas beaucoup mobilisé. Reste la date du 5 décembre, aux côtés peut-être cette fois des syndicats. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Tension extrême à Hong Kong autour d'un campus universitaire où sont trancher plusieurs centaines d'étudiants. Dominique André est sur place. Les maires de France se retrouvent pour leur congrès annuel sous la houlette de François Baroin, à qui certains prêtent un destin national. Le vent, la grêle et maintenant la neige, la lassitude des arboriculteurs de la Drôme et la victoire des Bleus hier soir face à l'Albanie qui leur permet de terminer en tête de leur groupe pour l'Euro 2020.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Un document exceptionnel sur Simone Veil. Elle raconte comme jamais la déportation et le difficile retour autour des camps, dans des confidences inédites au cinéaste David Teboul. Il en a fait un livre bouleversant, L'aube à Birkenau, aux arènes. Il vient nous en parler à 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec Rachida Dati. Elle est maire du 7e arrondissement de Paris, candidate Les Républicains à la mairie de Paris. Elle publie La confiscation du pouvoir, c'est aux éditions Plomb, 01 45 24 7000 pour dialoguer avec elle.
France Inter.
Et maintenant, que vont-ils faire? Un an après leur première mobilisation, les gilets jaunes sont redescendus dans la rue. Samedi, ils étaient 28 000 dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Bien loin des 300 000 manifestants du samedi 17 novembre 2018. Et hier, quelques centaines de personnes ont manifesté, notamment à Paris. Nombreux sont ceux qui désormais attendent la date du 5 décembre pour rejoindre le mouvement contre la réforme des retraites. L'occasion, Rémi Brancato, de peut-être enfin réunir les colères.
Pour beaucoup de gilets jaunes, la date du 5 décembre est déjà cochée sur le calendrier.
Moi, je serai en grève. Je suis employé.
Je suis travailleur indépendant, donc c'est moi qui décide si je travaille ou pas. Ce jour-là, je ne travaillerai pas puisque je manifesterai, du coup.
Avec la grogne des hôpitaux, des universités, cette grève contre la réforme des retraites, c'est désormais l'objectif principal de Benoît et d'Alfred.
Le 5 décembre, ça va être un horizon et on espère qu'il va y avoir une convergence, que la grève générale va bien être suivie, oui.
Et pour Louisa et Nathalie, il y aura un atout supplémentaire.
C'est les transports qui vont s'y mettre et ça, on sait qu'eux, ils ont un gros impact.
On paralyse le pays de cette manière-là et pacifiquement.
Début novembre, l'Assemblée des Assemblées, cette réunion de gilets jaunes, a lancé un appel à rejoindre la grève du jeudi 5, en semaine donc, ce qui laisse Benoît sceptique.
Beaucoup de gens ne peuvent plus se permettre de faire grève puisque le travail ayant été précarisé, il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur emploi lorsqu'ils font grève.
Malgré cela, Priscilla Ludowski, figure du mouvement, souhaite, elle, que tout le monde sorte dans la rue, mais Faouzi Lelouch, qui a pourtant fondé avec elle un lobby citoyen, n'est pas du même avis.
Moi, en tant que gilet jaune, je ne suivrai pas. Pour une très bonne raison, elle est simple. On a demandé aux dirigeants syndicaux d'être là, d'être présents. Ils sont où? On les a pas vus.
Pas question donc pour lui de risquer une récupération du mouvement par les leaders syndicaux, quitte à rater la convergence des luttes tant attendue.
Reportage de Rémi Brancato. Hier soir, 13 personnes, dont un mineur, étaient toujours en garde à vue après les violences qui ont émaillé la journée de samedi dans la capitale. 173 personnes avaient été interpellées. Les rassemblements hier se sont déroulés dans le calme. Seules les galeries Lafayette ont fermé leurs portes en début d'après-midi après l'intrusion d'un groupe d'une trentaine de gilets jaunes.
Il est 7h04, direction Hong Kong, Agnès, où la tension reste très vive sur le campus de l'université polytechnique.
C'est là que depuis samedi, un groupe de plusieurs centaines d'étudiants s'est retranché face à des policiers qui menacent désormais de tirer à balles réelles. Le tout sous la pression de plus en plus visible de la Chine qui ne cesse de répéter qu'elle ne tolérera pas la dissidence. Dominique André, l'envoyé spécial de France Inter à Hong Kong, se trouve actuellement à proximité de l'université. Reportage.
Retranchés dans l'université de Polytechnique, les manifestants sont piégés. Ce matin, certains ont essayé de fuir le campus, mais la police a tiré des gaz lacrymogènes. Ils ont dû renoncer. La situation à l'intérieur est confuse. Des informations sont diffusées via les réseaux sociaux et une équipe d'une agence de presse occidentale restée à l'intérieur. Ce matin, quelques centaines de jeunes manifestants sont venus de différents campus pour soutenir les étudiants de Polytechnique. On les voit errer dans les rues autour du campus, habillés en noir, masqué et équipé d'un parapluie, comme ce jeune étudiant.
On est venu à l'origine pour les soutenir. On voulait apporter du matériel aux étudiants et aux manifestants bloqués à l'intérieur du campus. On a essayé ce matin, mais toutes les entrées qui mènent à l'université sont bloquées par la police. On ne peut rien faire physiquement pour eux. La police a dit clairement que tous ceux qui seraient arrêtés à l'intérieur du campus seraient jugés comme émeutiers. Et la peine maximale, c'est 10 ans de prison.
Hier, un policier a été blessé par une flèche tirée par des manifestants sur le campus. La police se procède à des arrestations autour de l'université. Sur la péninsule de Kowloon, Dominique André, France Inter.
Au Chili, le mea culpa du président Piñera qui reconnaît pour la première fois un recours excessif à la force et des abus commis par les forces de l'ordre depuis le début du mouvement de contestation sociale il y a un mois. 22 personnes ont été tuées, plus de 2000 ont été blessés. Et puis en Bolivie, le pouvoir intérimaire promet, lui, de convoquer très vite des élections transparentes alors que la situation dans le pays reste tendue. En exil au Mexique, l'ex-président Morales évoque des crimes contre l'humanité après la mort de 9 de ses partisans. Des difficultés d'approvisionnement entraînent également un début de pénurie dans les magasins de La Paz. Retour en France avec le début aujourd'hui du congrès des maires de France qui devrait sceller la réconciliation avec Emmanuel Macron qui l'an dernier ne s'était pas montré. Le chef de l'État sera là demain aux côtés de François Baroin, le président de l'Association des maires de France qui dirige la ville de Troyes dans l'Aube depuis près de 25 ans et où certains le voient déjà en haut de l'affiche. Cécilia Arbona.
Non, c'est vu, non,
c'est non, mais c'est Baroin.
Son nom revient régulièrement comme une chanson populaire.
D'abord, j'étais un acteur majeur de la droite depuis 25 ans et on a subi des échecs. Si je peux être aidant pour ma famille, je le ferai bien volontiers. Dans ce qui est l'honneur de ma vie, d'être maire de Troyes.
Le quartier des origines de la ville, c'est le quartier cathédrale qui est derrière nous, en fait.
Dans les ruelles pavées du cœur du quartier du Bouchon, le lien d'attachement à François Baroin est une évidence.
J'aime beaucoup cet homme, beau physiquement, qui a une voix superbe, suave. C'est le fils de Chirac, c'est le fils des Troyens et de la France.
Pourtant, son adversaire historique au conseil municipal doute que le premier maire de France ait réellement le désir d'être présidentiable.
Ce n'est pas la première fois qu'on parle de François Baroin, candidat à l'Élysée.
Bruno Subtil, du Rassemblement National.
Qu'en sera-t-il véritablement? La boule de cristal est restée à la maison. Ces élections ont lieu dans 2 ans et demi.
L'intéressé précise que même ses enfants ignorent ses intentions profondes.
Pour moi, la question de l'incarnation de notre famille, elle se posera et personne ne peut parler à ma place. Si un jour j'ai quelque chose à dire sur un sujet de cette nature, je reviendrai vous voir.
Alors est-ce une stratégie pour entrer dans la lumière au moment propice où François Baroin prendra-t-il la tangente pour se protéger lui et ceux qu'il aime ?
Un congrès un peu particulier, évidemment, à 4 mois des élections municipales. À Toulouse, les Verts et la France Insoumise ont décidé de faire liste commune avec à sa tête Antoine Maurice, ce conseiller municipal écologiste de 38 ans, a été désigné hier pour mener la liste Archipel Citoyen.
Il est 7h08, 4 jours après les fortes chutes de neige en Rhône-Alpes. Agnès, 33 000 foyers restaient hier soir privés d'électricité.
Une situation qui a entraîné un drame en Isère. Un couple de personnes âgées a succombé à une intoxication au monoxyde de carbone après avoir installé un groupe électrogène dans le garage de leur maison. 2200 agents d'Enedis restent mobilisés pour tenter de rétablir le courant partout. Cette neige lourde et collante a également fait de gros dégâts dans les pépinières et les vergers de Drôme Ardèche. Aurélien Esprit est arboriculteur à Pont de l'Isère dans la Drôme.
C'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'on fait que de se plaindre, mais cette année je crois que le département de la Drôme a été un des départements les plus gravement touchés, un des plus sinistrés de toute la France. C'est vraiment un véritable drame que nous traversons et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot quoi. Il y avait déjà eu le vent qui avait cassé beaucoup de branches au printemps. Ensuite, il y a eu la grêle au 15 juin. Pour certains, il y a eu le tremblement de terre. Et maintenant, la neige. On se dit, ça va aller jusqu'où? Une grêle, à la limite, c'est déjà très grave. On connaissait que ça, mais c'est une année de perdu. Là, c'est plusieurs années. Enfin, franchement, je crois qu'on réalise pas vraiment ce qui s'est passé. C'est désespérant. Voilà.
Témoignage recueilli par François Breton de France Bleu Drôme Ardèche qui nous signale également que ce matin, plusieurs écoles restent fermées, notamment à Romans-sur-Isère. Et le trafic TER est interrompu entre Grenoble et Valence jusqu'à mercredi. La justice doit mieux faire pour lutter contre les violences conjugales, a reconnu hier la garde des Sceaux. Ce matin, ce sont les médecins qui, dans une tribune publiée sur le site de l'Obs, appellent à agir pour repérer et prévenir ces violences, mais sans lever le secret médical. Nous devons accompagner les femmes pour qu'elles osent porter plainte, disent les 65 médecins signataires de cette tribune, qui préconisent une formation spécifique et la généralisation d'un questionnaire simple qui existe déjà, mais qui n'est pas pas toujours utilisé. Contrat rempli pour les Bleus qui terminent premier de leur groupe de qualification pour l'Euro 2020 grâce à leur victoire hier soir en Albanie 2-0, but de Tolisso et de Griezmann. C'était aussi, pour l'anecdote, le 100e match de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. De bons résultats donc, Cédric Guillou, mais sans panache.
Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'équipe de France, mais cette fois-ci, les Bleus ont bien géré leur parcours de qualification pour un championnat d'Europe. Le bilan est honorable, 8 victoires, dont une hier soir 2-0 en Albanie, un match nul et une défaite en Turquie en juin, seul véritable couac de ces matchs de qualification. Le défenseur des Bleus, Clément Langlais.
On est content parce qu'il fallait absolument gagner pour terminer premier de ce groupe et on l'a fait.
L'équipe de France a donc assuré l'essentiel avec cette première place du groupe, cette qualification, mais elle n'a pas pour autant régalé ses supporters durant cette campagne. Didier et Henri étaient présents hier soir en Albanie.
Il y a eu quelques matchs un peu poussifs qui n'étaient pas réjouissants au niveau du spectacle, on va dire.
On a fait le déplacement en Turquie, par exemple, on n'a pas joué, c'était un non-match. Maintenant, c'est aussi de la patte Deschamps. Au final, le résultat est là, voilà.
Et avec Didier Deschamps à la tête des Bleus, Guillaume a appris à être pragmatique.
Ça serait bien d'avoir un peu plus de beaux jeux, mais je préfère gagner tous les matchs 1-0, ça me va, plutôt que gagner un match 5-0, faire une démonstration et derrière pas sortir des poules.
Les Bleus et leurs supporters connaîtront leurs adversaires pour la phase finale de ce championnat d'Europe le 30 novembre prochain lors du tirage qui aura lieu à Bucarest, en Roumanie. Tirana, Cédric Guillou, France Inter.
Et prochain rendez-vous pour les Bleus en mars pour 2 matchs de préparation. Pour finir, Nicolas, un détour par l'étonnant palais idéal du facteur Cheval à Haute-Rive dans la Drôme. Un édifice que Ferdinand Cheval a mis 33 ans à construire de ses mains à la fin du 19e et qui depuis fascine public et artistes. Sa fréquentation est même passée de 80 à 250 000 visiteurs par an depuis le film de Niels Tavernier. Et à l'occasion du 50e anniversaire de son classement au monument historique, le palais idéal propose une exposition. Son titre, Isabelle Pasquier, « Le vent et les oiseaux m'encouragent ».
Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres et les oiseaux me disent comment faire.
Extravagant et libre, Ferdinand Cheval, inspiré par les oiseaux, pour construire son chef-d'œuvre d'art brut. Son palais a fait fantasmer Picasso, André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, mais aussi Doineau, Agnès Varda, ou encore Ben et Hervé Di Rosa. Aujourd'hui, des plasticiens dialoguent avec le palais idéal autour de ce thème des oiseaux, de la liberté. À côté des dessins de Picasso, Fabrice Hibert a installé une grande cage à oiseaux en baguette de pain. Frédéric Legros, le directeur du palais.
Le facteur Cheval, avant d'être facteur, était boulanger. Et c'est comme ça qu'il a eu ce maniement de la pâte qui lui a permis de construire le palais. Donc la cage vient aujourd'hui accueillir nos deux inséparables, Ferdinand et Philomène, que Fabrice Hibert incite à sauver puisqu'il leur a dessiné un plan d'évasion. Et ils s'en sortent plutôt bien puisque depuis le début de l'exposition, ils sont déjà échappés 3 fois avant de revenir dans leur cage.
Dans le jardin, une étrange machine volante avec de gigantesques ailes de corbeau. C'est une œuvre de l'artiste libanais Ali Chéri, inspirée par un savant fou du 9e siècle. Dans le palais idéal coexistent une mosquée, la Bible et un temple hindou. Le palais idéal, plus que jamais utopique.
Le vent et les oiseaux m'encouragent, c'est donc le titre de cette exposition à découvrir à Haute-Rive dans la Drôme.
Merci Agnès Soubirand.